Rendez-vous de midi, musique, littérature, débat d'idées. Au rendez-vous de midi, au sommaire de cette édition, trois moments. Un moment musical sur la route des musiques de trance autour de la Méditerranée, autour de Algo, avec un entretien mené par Elisabeth Sestor. Il nous parle notamment d'Egnawa. Une séquence littéraire autour de trois livres. Le moment fraternité de Régis Debray. Le récit roman de Jérôme Ferrari, Un dieu, un animal. Et un texte magnifique de Georges Didier Huberman, Le danseur des solitudes. Et troisième moment autour du grand écrivain égyptien, Ala El Aswani, une rencontre enregistrée à la bibliothèque départementale le 11 mars avec une lecture de Marc Roger.
Bonjour, pour introduire cette partie musicale du rendez-vous de midi, nous venons d'entendre un extrait d'un rituel marocain, celui d'une confrérie de Gnawa. Alors qu'est-ce que les Gnawa et ces rituels? Pour nous en parler aujourd'hui dans les studios de Radio Grenouille, nous avons invité un photographe, Algo, qui est installé à Marseille et qui a arpenté régulièrement les rives de la Méditerranée, notamment au Maghreb, pour mener des projets autour des musiques rituelles et musiques de trance en Méditerranée. Alors Algo, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints dans ces studios de Radio Grenouille. Est-ce que vous pourriez commencer par nous dire quelques mots sur cet enregistrement sonore que nous venons d'entendre?
Alors en fait, cet enregistrement sonore fait partie d'un documentaire sonore réalisé et enregistré par Manuel Pénicaud, qui est anthropologue et qui a travaillé 2 années au Maroc sur des pèlerinages. Et en fait, ça faisait partie d'un travail collaboratif sur une exposition justement sur l'univers des Gnawa au Maroc. Et l'idée était, dans le cadre de l'exposition qui avait eu lieu à la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône de Marseille, justement de faire un travail aussi sonore sur ce travail photographique.
D'accord, donc depuis 2005, je crois, vous arpentez un peu les rives du côté du Maghreb.
Voilà, depuis 2005, j'ai commencé un travail sur les musiciens Gnawa, qui a commencé donc au Maroc, en commençant à travailler sur un festival assez connu au Maroc, qui s'appelle le Festival de musique Gnawa d'Essaouira. Et depuis, je suis revenu en 2005, 2006, 2007 au Maroc pour approfondir ce travail auprès de musiciens dans le cadre de rituels, pour ensuite, en fait, en me documentant de manière plus précise, me rendre compte qu'il y avait tout un travail à faire sur l'ensemble du Maghreb.
Qui sont ces Gnawa et ces rituels? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors en fait, les Gnawa sont une communauté de musiciens thérapeutes qui, à l'origine, viennent de la communauté noire amenée par les Arabes, en fait, pendant la traite orientale. C'était des anciens esclaves noirs qui venaient de l'Afrique subsaharienne, donc Mali, Niger, Soudan notamment, qui ont été amenés justement sur les territoires du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye pour servir de main d'œuvre justement pour construire des maisons, les palais. Et donc en fait, ils ont amené leurs rituels avec eux, leurs pratiques animistes qui se sont mélangées avec l'univers islamique et arabo-berbère en développant un culte des esprits et des génies qui soignent les gens par la transe.
Ce sont des rituels qui sont encore fréquents de nos jours. Et vous y participez. En général, on dit que normalement c'est en cercle privé. Alors vous qui êtes photographe, comment est-ce qu'on peut prendre des photos de ces rituels? Quel rapport vous entretenez avec ces confréries et avec ces maîtres?
Oui, alors cercle privé, oui, on peut dire que ça peut se jouer dans le cadre du cercle privé parce que c'est notamment familial, c'est-à-dire qu'il y a des cérémonies qui se passent au sein de la famille, donc qui sont réservés aux membres de la famille. Mais en même temps, il y a aussi des cérémonies qui sont des espaces ouverts où il y a beaucoup de passages, où les gens peuvent rentrer et sortir, notamment dans les Zaouyas, qui sont en fait les sanctuaires ou les tombeaux d'un saint, où a lieu, où ont lieu régulièrement des rituels. Donc, on peut pas dire que ce soit un espace forcément fermé, parce qu'on peut rentrer. Après, moi, je suis rentré par la porte musicale, en commençant à travailler sur le côté vraiment musical par rapport au festival. Et ensuite, j'ai donc approfondi en travaillant avec des musiciens, des malems, comme on les appelle, qui veut dire maître en arabe, qui m'ont petit à petit ouvert la porte un peu de ce monde-là.
Qui vous ont introduit,
en fait. On peut dire que oui, on m'a introduit, et puis j'ai pas photographié tout de suite. Moi, d'abord, j'étais curieux, j'ai posé plein de questions. Je me suis renseigné auprès de ce qui avait été fait, notamment en anthropologie, en ethnologie, au niveau musique aussi.
Avez une formation.
Oui, j'ai une formation d'anthropologue, d'ethnologue à la base. Mais c'est en revenant plusieurs fois, revenant voir les personnes et les malems plusieurs fois, que j'ai pu après faire des photographies. Après, c'est pas quelque chose qui est forcément difficile à faire. Il faut juste demander une espèce de permission informelle d'être présent. Pour faire des photos. Après, c'est vrai que quand vous connaissez les musiciens, c'est beaucoup plus facile de faire des photographies parce que vous êtes accepté par les musiciens qui sont un peu vos garants, en fait. Après, en tant qu'Européen, Français, vous pouvez très bien aussi rentrer dans une cérémonie. C'est pas du tout fermé comme on pourrait le croire. Après, c'est prendre des photos à la volée qui peuvent être mal perçues. C'est surtout ça, je pense. Après, c'est un travail assez long. Moi, je travaille, c'est vrai que vous aviez dit que j'ai une formation anthropologue. Moi, c'est ce que m'a appris l'anthropologie, c'était que pour comprendre une culture, comprendre une cosmogonie, une manière de voir le monde, il fallait passer du temps, revenir, apprendre le langage, la parole, mais aussi le langage du corps dans l'espace, pour connaître un peu ce qui se passe dans une cérémonie, et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense que c'est ce que m'a appris l'anthropologie à mon niveau personnel, en fait.
Oui, et ce sont aussi maintenant des rituels qui vont sur scène.
Voilà, la particularité de la musique nawa, c'est qu'elle existe à la fois en rituel, toujours aujourd'hui, mais c'est une musique aussi qui est profane, on peut dire, à un moment donné, qui monte sur scène. Alors cette ambiguïté-là, elle a toujours existé chez les gnawa, parce que c'était des musiciens qui jouaient à la fois donc dans les rituels, mais aussi pour des fêtes ou des mariages, où là, la transe n'avait pas lieu, mais qui était plutôt musicale. Mais aujourd'hui, on a assisté à un phénomène depuis les années 60-70, où des musiciens sont venus au Maroc, comme Led Zeppelin, Deep Purple, ou encore Jimi Hendrix, venus jouer justement avec ces musiciens, et on fait connaître un peu ces musiciens de par le monde. Et donc, c'est vrai qu'une scène musicale s'est développée avec un festival qui en est à sa deuxième année cette année, qui est donc le festival des Sawera de musique nawa au Maroc. Et du coup, on assiste vraiment à un travail aussi artistique et musical avec des fusions, des mélanges, avec d'autres musiciens, avec des créations vraiment aussi artistiques.
Donc avec d'autres musiciens, et puis justement, votre projet, il ne se limite pas au Maghreb. Vous avez un projet un peu plus ambitieux, alors est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Voilà, alors en fait, les Gnawa, je dis le mot Gnawa, mais en fait, les Gnawa, c'est spécifique au Maroc. Moi, je développe un travail sur l'ensemble du Maghreb, donc sur les Gnawa qu'on appelle aussi Diwan en Algérie et Stambali en Tunisie, qui est le même culte, en fait, qui s'attache au même culte des esprits, avec pour maître Sidna Bilal, qui était le premier esclave affranchi par Mohamed, esclave noir, parce qu'il s'était converti à l'islam, et donc aussi le premier des muezzines. Et donc c'est la première étape d'un projet un peu plus global sur les musiques et danses de trance en Méditerranée.
Doit aboutir à une exposition de photographie.
En fait, disons que la première étape, c'est vraiment le Maghreb, donc c'est cette expo-là qui va être en priorité faite en fait pour 2010, où il y aura un travail vraiment fait et de photos et de documentation sonore sur le monde des musiciens. Et le but après, c'est de poursuivre sur l'ensemble des pays de la Méditerranée, justement en faisant des liens avec pour aller plus loin, la tarantelle en Italie, la pizzica, les davish tourneurs en Turquie, le nakbe au Liban, des danses et des musiques qui sont liées à un moment donné à la trance et qui se sont rencontrées à un moment donné aussi historiquement et musicalement.
Donc si on veut en savoir plus et suivre votre projet, vous avez un site internet à nous conseiller.
Voilà, vous avez mon site personnel algopix.net, www.algopix.net, où vous pouvez voir ce travail-là qui montre pour l'instant le travail sur la Tunisie et le Maroc. L'Algérie est prévue cette année. Et vous avez aussi le www.collectifoli.com qui montre ce travail d'exposition qui a été réalisé sur les Gnawa à la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône.
Donc nous allons mettre tout ça également sur le site de Radio Grenouille et le site de La Pensée de Midi. Pour terminer cette partie musicale, vous nous avez amené un morceau de musique gnawa que vous appréciez particulièrement.
Voilà, ce morceau s'appelle Chabalati. Chabalati, c'est un morceau justement où le Malem chante en Bambara, qui était une langue justement qui vient du Mali. Et qui montre ce lien qui était l'Afrique, qui était entre l'Afrique et le Maghreb, justement.
Merci beaucoup, Algo, d'être venu dans le studio de Radio Grenouille.
Eh bien, merci à vous de m'avoir reçu.
إدريس بندريس فاس الباي رواح علي برايسور رجال الله رواح سجل صروق دم البلد إني بلا باس ويا الولي وانت سلطاني على الله عويش يا سيدي ناطفال الله رواح علي برايسور دم البلد يا بالعرف ويا الولي كن ضمن أسيدي حمزة ويا الولي وانت سلطاني الولي بن يوسف ويا الولي نطفى لله على الله وسادتي كن ضمني الولي بن صالح ويا الولي نطفى لله على الله نجمة ويا زيادي يا الله حسنا ويا سيدي ما تفالي ليه ايه شلب مصير وصروق اماني الليل لا اله الا الله العزيز رسول الله سلطاني سيدي عمر ويا الولي تكون ضمن مولاي اليزيد ويا الولي وانت سلطاني زور سيدي منصور ويا الولي الاطفال ملوك سادي يا سادتي جيفوا لله سيدي السهيلي ويا الولي الاطفال سيدي ميمون يا الولي كونو ضماني يوسف بن تاجفين تويا سيدي الاطفال الله على العرق يا سادتي كونو ضماني اسيدي غريب ويا الولي الاطفال الله رجع الكتب يا سادتي جيفوا لله سيد لي اماني ويا الولي الاطفال الله على بوتي طالع بابيلانا جانا بوير جانا بابيلا لا إله إلا الله حبيب رسول الله لا إله إلا الله سيدي يا رسول الله أما لا جانبا إرزرو أمان الله إن شاء الله بامتير الطرم ما بلنا لا حول ولا قوة إلا بالله يا غاسي
شربتي ترى يا جلال
Moment littérature donc autour de trois livres, essais, Régis Debray, Jérôme Ferrari et Georges Didier Huberman. Régis Debray, Le moment fraternité, paru aux éditions Gallimard. On connaît bien l'œuvre littéraire et philosophique de Régis Debray. Ce livre, Le moment fraternité, s'inscrit dans, je dirais, sa réflexion politique sur le monde contemporain et notamment la situation française et européenne. Ainsi commence ce moment fraternité de Régis Debray. L'individu est tout et le tout n'est plus rien. Que faire pour qu'il devienne quelque chose? Comment, au royaume éclaté du moi-je, susciter ou réveiller des nous qui ne se payent pas de mots et laissent chacun respirer? Qu'est-ce qui peut encore sceller une complicité en dehors de la maison, du stade et du bureau? Questions urticantes, mais que je ne crois pas intempestives. Elles ne sont effectivement pas intempestives et avec l'art littéraire et la verve qu'on lui connaît, Régis Debray explore en trois temps, trois livres, Du bon usage du sacré, Crépuscule d'une religion, Les droits de l'homme et Le travail de fraternité. Cette question de la fraternité, au fond, qui est la dimension absente de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, et la fraternité est aujourd'hui bien absente. Et c'est ce que tente de montrer Régis Debray, loin des utopies totalitaires, comment on pourrait, dans le temps démocratique et dans le temps républicain, puisque c'est une dimension qui lui est chère, essayer de retrouver un peu de cette dimension du nous qui constitue l'être ensemble et qui est au fond au cœur du politique. Et il montre d'ailleurs combien cette relation à la fraternité est très largement liée à la question du sacré, autre dimension de son travail sur le religieux, le sacré, et sur les images également. Crépuscule d'une religion, les droits de l'homme, toujours cette dimension critique par rapport à ce qu'il appelle la religion de l'Occident contemporain, la rock, qui est aujourd'hui une espèce de discours complètement fabriqué et qui nous permet, d'une certaine façon, qui occulte les débats sur le politique. Enfin, troisième temps, le travail de fraternité. Régis Debray essaye avec beaucoup de verve de nous faire comprendre ce que cette notion de fraternité peut signifier et combien elle nous manque. Le moment fraternité, un livre de Régis Debray à lire avec attention. Jérôme Ferrari, dans son livre « Un dieu, un animal », fait au fond l'expérience de la fraternité et c'est, j'irais presque deux frères, en tout cas deux amis, Jean Do et le narrateur, qui, à partir d'un petit village de Corse, s'ennuie profondément, regarde le temps passer et cet ennui va les amener à rechercher l'intensité, notamment l'intensité de la guerre. Et fascinés par les armes, fascinés par la violence, ils vont, l'un entraîné par l'autre, aller au combat, s'enrôler dans l'armée, devenir des volontaires et se retrouver au milieu d'un conflit, au milieu de la violence. Et ce livre est à la fois un roman, l'histoire profonde d'une amitié faite d'une grande délicatesse et au fond l'histoire d'un cheminement vers le néant, vers la violence et vers la mort. Un livre d'une grande profondeur. L'auteur Jérôme Ferrari, qui aujourd'hui enseigne la philosophie en Corse et qui a enseigné en Algérie, écrit un texte absolument somptueux, Un dieu, un animal, un roman qui permet de comprendre le vide justement démocratique contemporain et cette espèce de quête absurde de la violence et de la mort à partir de l'ennui tel qu'il peut se vivre dans un petit village corse avec un regard plein de tendresse mais aussi plein de violence. Jérôme Ferrari, Un dieu, un animal, aux éditions Actes Sud. Enfin, un petit joyau d'un critique d'art très connu, Georges Didier Huberman, très connu justement pour son travail sur la peinture, sur les images, sur l'art contemporain. Et il nous donne un texte que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et c'est un texte qui était paru il y a 3 ans, « Le danseur des solitudes ». qui est un texte inspiré par le grand danseur de Israël Galvan que Georges Didier Huberman cherche à faire partager la puissance et la grâce, la force, le rapport au tragique que la danse d'Israël Galvan peut lui inspirer. C'est une méditation, je dirais, esthétique, philosophique, sur la danse, sur le cante rondo, sur le lien avec la tauromachie, un texte d'une grande profondeur et à la fois d'une très grande légèreté qui, pour tous ceux qui aiment le cante rondo, qui aiment la tauromachie et qui s'intéressent au tragique, il y a à travers cette réflexion sur un danseur et sa façon de rythmer le monde, sa façon d'exprimer un rapport au monde à travers sa danse et son expression unique, véritablement un petit chef-d'œuvre à découvrir. Un petit extrait de Didier Huberman où il dit ceci. J'ai vu un jour dans les Alpes Jarras un oiseau immobile dans le ciel. C'était un petit rapace. Son corps, à mieux y regarder, esquissait bien quelques gestes infimes. Juste ce qu'il fallait pour demeurer dans le ciel en un point aussi précis qu'intangible. Sans doute était-ce le sitio, convenable pour bien guetter sa proie. Mais il lui avait fallu pour cela même renoncer à voler vers un but, ne surtout pas fendre l'air, tout annuler pour un temps indéfini. C'est parce qu'il s'était placé contre le vent, parce que le milieu, l'air, était lui-même en mouvement, que le corps de l'oiseau pouvait ainsi jouer à suspendre l'ordre normal des choses et à déployer cette immobilité de funambule, cette immobilité virtuose. Voilà exactement, me suis-je dit alors, ce que c'est que danser. Faire de son corps une forme déduite, fût-elle immobile, de forces multiples. Cette immobilité virtuose, c'est sans doute ce qui caractérise la danse exceptionnelle de Israël Galvan. Le danseur des solitudes, par Georges Didier Huberman, aux éditions de Minuit. Dernière partie de cette émission, une rencontre avec le grand écrivain égyptien Alaa El Hassani à l'occasion de son passage à Marseille le 11 mars lors d'une rencontre à la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône à l'occasion de la parution de son nouveau livre aux éditions Actes Sud, « J'aurais voulu être égyptien » et un moment de lecture de ce livre par Marc Roger, lecteur public. Peut-être quelques mots pour vous dire au fond comment cette aventure a commencé, parce que c'est une belle histoire. Il y a 5 ans maintenant, nous avons fait un numéro de la Pensée de Midi, Égypte, avec un petit S d'ailleurs, ce qui a un peu choqué les Égyptiens parfois, qui sont comme beaucoup de pays un peu monistes. Et donc dans ce numéro, nous avions décidé de faire découvrir de la littérature arabe non encore traduite en français. Au fond, c'est le rôle d'une revue de faire découvrir des auteurs, de faire découvrir des textes. Et nous avions accueilli à cette occasion, pour des débats littéraires du même ordre que ce soir, quatre écrivains égyptiens, dont Alaa El Hassani. Et dans ce numéro de La Pensée de Midi, il y avait donc trois pages ou quatre de l'immeuble yacoubien qui avait été traduit. Et Alaa El Hassani, lors d'une soirée de présentation et de lecture, puisque nous aurons aussi ce soir des moments de lecture avec un ami lecteur public qui s'appelle Marc Roger et que vous allez entendre à plusieurs reprises dans la soirée. Donc au cours d'une lecture que j'avais eu le plaisir de faire, je lis bien moins bien que lui, et donc à la fin, Alaa m'a pris par l'épaule et m'a dit « Voilà, moi j'ai fait mes études en français, au lycée français du Caire. Et s'il y a une langue à laquelle je tiens pour que mon livre soit traduit, c'est vraiment le français. » C'était il y a 2 ans et demi maintenant, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, la rencontre était il y a en 2004. Et là, il y a 2 ans et demi, le livre L'immeuble yacoubien a été publié. Et hier soir, puisque nous avions une autre rencontre à Arles hier soir, Alaa El Hassani disait que
avec son agent, il fêtait le millionième exemplaire de l'immeuble Yacoubian dans le monde. Donc c'est un phénomène littéraire assez formidable. Et beaucoup est né de cette rencontre à travers la revue et cette complicité qui est née avec Alla et la Soigny. Et je crois qu'on va l'entendre ce soir. Donc à l'occasion de la parution de son dernier livre, J'aurais voulu être égyptien, qui est un livre mordant, magnifique, plein de belles histoires, que vous aurez aussi l'occasion d'entendre ce soir. Je voudrais saluer aussi la présence de la librairie Maupetit, Madame Janos, qui est là pour présenter les livres. Et donc à l'issue de la rencontre, pour ceux qui le souhaitent, Alla Soigny signera des livres. Par rapport aux images que l'on peut avoir de la pudeur, de l'interdit, qui aujourd'hui sont là, l'image sur le voile, le rapport des femmes, il y a dans Yacoubian, mais pas que dans Yacoubian, dans d'autres textes, cet autre regard, je dirais, sur la liberté, d'être, la liberté de sexuelle. Donc, est-ce que, comment dire, ces extraits de ce texte, dans le rapport à Yacoub, à ces passages et à d'autres passages, je pense aussi à ce qui est dit, les personnages sur la place de l'homosexualité dans Yacoubian. Et donc, il me semble qu'il y a des, comment dire, que vous avez un peu déplacé les lignes. Voilà. Comment est-ce que ça a été reçu? Et sachant aussi que vous avez publié il y a un mois, le mois dernier, en tout cas, ça a été traduit dans Courrier International, un texte assez vigoureux, je dirais, sur les femmes et la liberté religieuse et la liberté de penser. Donc cette dimension des femmes, puisqu'il y a beaucoup de personnages de femmes dans vos romans.
Je pense que la littérature arabe jusqu'à maintenant n'a pas été présentée d'une manière juste et efficace à l'Occident. Alors c'est pour cela qu'on a un peu, je vous remercie d'avoir posé cette question, parce qu'on a toujours, et on confond toujours à l'Occident le politique avec le littéraire, dans le sens qu'il y a vraiment un problème, il y a un combat en Égypte entre la tolérance égyptienne et l'interprétation égyptienne qui est très tolérante de l'islam et le wahhabisme qui est le contraire.
Mais pour ceux qui ne connaissent pas, le wahhabisme, c'est la religion de l'Arabie saoudite. Non.
Mais la littérature arabe était toujours libre. La littérature arabe toujours dépassait les barrières, dépasser les tabous. Et je ne parle pas seulement de la littérature qui est contemporaine, je parle des textes qui ont été écrits depuis 10 siècles. Par exemple, notre grand écrivain Gahez a écrit un texte merveilleux dans lequel il a imaginé une conversation, un débat entre un homosexuel et quelqu'un qui aime les femmes. Et c'est vraiment très joli ça, et ça a été écrit à Bagdad il y a 10 siècles. Il y a 10 siècles. Et Abou Nawas, le grand poète, était arabe, qui vivait à la même époque, était homosexuel, et il a écrit des poèmes d'homosexualité vraiment très jolis. Et là, moi, ça ne m'étonne pas, parce qu'on ne peut pas garder une mentalité fermée en écrivant la littérature. Ça ne peut pas marcher, parce que la littérature est un moment de vérité. La littérature, par nature, est contre l'hypocrisie. La littérature est un effort pour comprendre l'être humain, pour essayer d'explorer des domaines dans l'être humain qui n'ont pas été explorés avant le texte. Alors, on ne peut pas arriver à ces objectifs avec une mentalité fermée ou avec un sentiment de cœur, de peur ou un sentiment de tabou, parce qu'on ne peut pas écrire. Alors, je pense, oui, l'immeuble Yacoubian a dépassé les barrières, et pas seulement l'immeuble Yacoubian, tout ce que j'ai écrit en fait a dépassé les barrières, et toutes les barrières les tabous de wahhabisme, les tabous de sexuels, les tabous. Mais je pense que c'est pas vraiment un cas exceptionnel. Je pense que c'est pas moi qui a dépassé c'est la littérature qui a dépassé.
C'est une façon de, au fond, de renouer avec un héritage de liberté, de mœurs, de liberté de pensée à travers Jahiz, à travers Abou Nouas, le Kitab al-Arani, et qu'au fond une part de la fermeture qui date peut-être de quelques siècles et non qui a, je dirais, un peu mis entre parenthèses tout ce courant littéraire qui est au fond dans l'expression de la liberté.
Non, les Arabes ont construit une grande civilisation et ça c'est une vérité d'histoire. On ne peut pas être civilisé sans avoir le respect pour les différences. Parce que être civilisé simplement signifie que vous avez respect, vous respectez les gens et les cultures différentes. Alors moi je pense que c'est normal qu'il y avait tolérance pendant la civilisation arabe qui durait 7 siècles. Mais aussi je dois vous dire que l'Égypte a joué un rôle très important dans cette tolérance, dans cette civilisation. Et on a eu cette interprétation qui est vraiment très fermée depuis les années 70. Mais avant, il y avait toujours la littérature égyptienne, l'art égyptien, le cinéma égyptien qui était toujours libéral et très ouvert. Et jusqu'à maintenant, je pense aussi qu'il y a deux combats en Égypte, en fait. Il y a le combat qui est le plus visible pour la démocratie, mais il y a un autre combat qui n'est pas moins important, dans lequel l'Égypte défend sa culture libérale contre l'interprétation fermée de la religion qui est le wahhabisme.
Elle a soigné donc la liberté des mœurs, liberté des femmes, liberté dans l'expression des homosexuels, de l'homosexualité en Égypte et pas seulement en Égypte. Liberté aussi par rapport à la dimension religieuse. Au fond, on n'en a pas souvent parlé ensemble, alors que chemin faisant, quand on va en Égypte aujourd'hui, l'apparat religieux habite la société égyptienne, traverse vos textes. Mais les traverses, je veux dire, avec un regard et une lecture pour le moins impertinente. Donc, qu'est-ce que c'est le rapport d'Alaa al-Aswani à la dimension religieuse et notamment islamique, même si la société égyptienne n'est évidemment pas seulement islamique, puisqu'il y a une grande partie de la population qui est copte, Alaa al-Aswani.
Moi, il y a 20 ans, j'ai décidé de lire les trois religions. Avec attention, j'ai lu les trois religions avec attention et
les trois grands textes.
Les grands, exactement. Et je me suis rendu compte que si on ne pense pas aux mythologies, aux détails, les trois religions disent la même chose. Les trois religions donnent un modèle de principe d'humanité. C'est le même modèle. Alors je me suis posé la question, mais si c'est le cas, mais pourquoi la religion a été dans l'histoire humaine la raison de crimes et de guerres et de beaucoup du mal en fait? Alors la réponse pour moi était l'interprétation. Comment vous lisez la religion? Si vous lisez la religion comme une manière parmi les manières de trouver les principes d'humanité, de trouver Dieu et de trouver les principes d'humanité, je pense que vous êtes en train vraiment d'utiliser la religion de la bonne manière. Mais si vous pensez, dans le moment où vous pensez que vous avez seul la bonne religion et les autres n'ont pas la bonne religion, vous devenez vraiment dangereux pour les autres et pour vous-même. Alors, l'importance de l'interprétation de la religion est très importante parce que, comme je viens de dire, l'Égypte a été, les Égyptiens ont été toujours religieux. On a commencé la religion en Égypte, en fait. C'est nous qui avons commencé la religion parce que la première fois que l'homme a pensé dans un dieu, dans un pouvoir absolu, c'était Akhenaton. Alors, nos coptes, nos chrétiens sont plus religieux que les chrétiens ailleurs. Nos juifs étaient plus religieux que les juifs. Alors, les musulmans n'ont pas, c'est le même cas. Le problème n'est pas que être religieux. Le problème, la vision, l'interprétation que vous avez pour la religion. Comme je viens de dire, l'interprétation égyptienne de l'islam était formidable, était très ouverte et libérale pour les droits de la femme. Les Égyptiens n'ont jamais pensé que la religion comme barrière contre ce qu'ils veulent faire. Et jusqu'à les années 80, comme je viens de dire. C'est pour cela qu'on a commencé en Égypte la société civile très tôt. On a eu le premier parlement, la première constitution, la première femme éduquée, la première.
Obda Charaoui qui
tout à fait. Je dois dire aussi quelques mots sur le voile parce que je pense que le voile a commencé comme un symbole religieux dans les années 70 en Égypte, mais ça m'étonne un peu que le voile est vu à l'Occident d'une manière, pour moi, un peu exagérée. Parce que le voile n'est pas, je ne sais pas, peut-être le voile est comme ça ici à l'Occident, mais le voile en Égypte n'est pas un symbole politique. Vous voyez, dans le sens que si la femme est voilée, ça ne veut pas dire qu'elle va voter pour les frères musulmans. Du tout. Ça, c'est une autre chose. Et même, on a fait, la plupart des femmes voilées en Égypte, ils ont fait des modifications dans le voile. Il y a le voile, mais il y a des vêtements très élégants. Oui.
Alors, il y a une journaliste française qui est chroniqueuse au Monde, Caroline Fourès, qui a déclaré que toute femme voilée était une collabo. C'est très fort en français. Collabo, c'est des gens qui ont collaboré avec les Allemands dans les années 40. Hein, vous voyez, donc il y a des images comme ça de combats qui sont assez. Comment dire, on n'est pas dans la nuance qui s'exprime justement dans vos livres.
Non, une femme peut être voilée pour plusieurs raisons en fait. Et aussi, on doit, si on croit en liberté de la femme, alors elle doit avoir le choix. Hein. On ne peut pas être avec la femme. Quand elle va faire le choix qu'on aime et être contre elle si elle fait le choix qu'on n'aime pas. Parce que moi, je pense que c'est pas juste. Une femme, c'est un être humain et elle a absolument le droit de choisir d'être voilée ou de ne pas voiler.
Alors comment ça s'est passé justement? Parce que bon, les frères musulmans, les mouvements islamistes sont puissants. On a encore eu malheureusement des attentats au Caire il y a deux semaines. Une jeune Française qui s'est fait tuer par ces attentats stupides et effroyables. Comment est-ce qu'ils ont réagi devant vos textes qui sont, je dirais, il y a une dimension de liberté sexuelle? Il y a une mise en question régulière de la tartufferie et vous ne vous privez pas, enfin quasiment jamais, de lancer des coups de griffe. Donc comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des interpellations de leur part, des critiques, des controverses? Ou alors est-ce que c'est plutôt ce cher gouvernement égyptien contre lequel vous battez aussi à travers le mouvement Kefaï, hein, qui veut dire ça suffit par rapport à l'Égypte de Hosni Moubarak, qu'il a depuis combien d'années déjà?
30, presque, 30 années.
30 années de Hosni Moubarak.
Au pouvoir, oui. Je pense dès 1981, ça fait presque... Mmh. Oui. Pas mal du temps.
N'est-ce pas? Oui. Donc, comment ça se passe, donc, cette réaction, je dirais, de la réception littéraire par rapport à cette dimension de liberté de pensée, de critique par rapport à la dimension religieuse?
Non, j'apprends à travers mes lecteurs, en fait, et j'ai fait une expérience avec mon roman Chicago, parce que ça a été publié en feuilleton dans un journal qui n'est pas un journal littéraire, un journal indépendant, chaque semaine. Et moi, parce que je pense que mes romans vraiment contiennent tous les sujets qui rendent un fanatique malheureux. Et je pense que la littérature a été toujours comme ça. Moi, je pensais que je vais avoir vraiment des réactions très négatives et très fortes. Mais ce qui s'est passé, c'est que la plupart des lecteurs, la plupart de mes lecteurs sont jeunes en Égypte et la plupart de mes lecteurs sont des femmes voilées. hein, des femmes jeunes voilées.
Il faut savoir que les livres ont un énorme succès autant à l'international qu'en Égypte, parce que souvent il y a des écarts. Alors là, le grand succès des Yacoubian et puis de Chicago, c'est peut-être encore plus Chicago que Yacoubian, c'est plus de 100 000 exemplaires, ce qui à l'échelle égyptienne est absolument considérable.
Chicago a vendu seulement pendant 2007 140 000 exemplaires, et avant l'Imam Yacoubian a été le roman le plus vendu de monde arabe dès 2002 jusqu'à 2007, et après elle est devenue numéro 2 parce que numéro 1 c'était Chicago. C'était très bien. Moi, j'étais numéro 1.
Mais on ne connaît pas bien les chiffres parce que, comment dire,
oui, mais,
ça obligerait
mais
les éditeurs à payer
des droits. Ce que je veux dire,
que
il y a deux combats, et il y a des traditions de tolérance en Égypte et des traditions de lecture littéraire que la plupart des lectrices et des lecteurs étaient contents. Il y avait toujours des fous, mais je pense qu'il y a des fous partout. Vous voyez, je te racontais cette histoire de... Parce qu'il y a, dans le roman Chicago, il y a une femme voilée qui est allée pour étudier en Amérique, et peu à peu, elle commence à tomber amoureuse avec quelqu'un. Alors j'ai eu un lecteur, chaque semaine, qui m'envoyait un email en disant que, écoute, faites attention parce que cette femme voilée ne doit pas coucher avec ce monsieur. Si elle couche avec ce monsieur, alors ça ne sera pas bien pour toi. Et j'ai dit, écoutez, et moi j'ai répondu en disant, écoutez, parce que c'est une femme, je ne sais pas, si elle va coucher, elle ne va pas coucher. Et lui, il a dit non, elle ne doit pas coucher. Et même, ils peuvent écrire seulement un papier, comme ça, ils deviennent mariés, alors c'est mieux. Et elle a couché avec le... Il m'a bombardé avec des insultes en disant que si tu es l'ennemi de la religion, l'ennemi des femmes voilées. Alors je lui ai dit, écoute... Ça, c'est pas, cette fille ne présente pas les femmes voilées, c'est un personnage qui est une fille voilée. Et aussi, si tu n'aimes pas le roman, mais pourquoi tu achètes le journal? Tu peux ne pas acheter le journal.
Alors, Alain Soigny, il y a effectivement encore cette patte. Il y a beaucoup de tendresse. Hein, je sais que ça compte beaucoup pour vous d'arriver, d'observer, d'aller au plus près et puis d'essayer de rendre ces passions et cette dimension, je dirais, d'humanité qu'il y a dans vos personnages, quelle que soit la tendresse ou parfois la violence qui peut exister à travers ces personnages.
Merci. Je pense que la littérature, je répète toujours que la littérature est un moyen de comprendre les autres et surtout pas les juger. Je pense que c'est essentiel de ne pas juger dans une littérature, parce que c'est grâce à la littérature qu'on pourra toujours comprendre les autres, avoir une ouverture, avoir une tolérance. Et comme vous le dites, c'est un monde que moi, je n'ai pas vécu, parce que ce monde était avant les années de la Révolution. Mais de toute façon, j'ai vécu une ouverture en Égypte jusqu'à la fin des années 70. J'étais un élève au lycée, et par exemple, on fêtait au lycée pendant les années 60 et les années 70, on fêtait 3 ou 4 fêtes religieuses, parce qu'on fêtait les fêtes des musulmans et des coptes, des chrétiens égyptiens. Et il y avait quelques juifs avec nous, rarement, mais il y avait. Et on a compris qu'on avait une génération très intéressante de professeurs français, qui est la génération après 1968. Alors, quand on essayait de fêter Noël, on découvrait que le professeur n'est pas croyant, vous voyez. Alors, on a eu...
Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas être croyant? Choc!
Non, ça a été, pour nous, ça a été compris et accepté. Et le résultat, que pour les professeurs français surtout, on posait les questions avant Noël Monsieur, vous êtes croyant ou non? S'il était croyant, on fêtait Noël. S'il disait non, je ne suis pas croyant, on fêtait son anniversaire. Et je pense que c'est ce qui se passe, cette ouverture, cette tolérance, ce vraiment profond respect pour les différences n'était pas seulement au lycée français, mais était dans toute l'Égypte.
On va peut-être écouter la musique de la littérature de d'Alaa El Aswany, traduite par Gilles Gauthier. Une des nouvelles dans le dernier livre, Madame Zita Mendes, une dernière image. Marc Roger.
Madame Zita Mendes, une dernière image, 1961, un dimanche, j'accompagne mon père chez elle. L'immeuble élevé se dresse au milieu de la rue Adli. À peine franchi le porche, une bouffée d'air frais nous saisit. C'est une vaste entrée recouverte de marbre avec d'énormes colonnes. Un gigantesque portier nubien nous précède avec empressement pour appeler l'ascenseur. Mon père lui glisse un billet dans la main et il se retire en murmurant des remerciements. À partir de ce moment-là, mon père a un autre visage, différent de celui que je lui connais à la maison. Chez Tante Zita, mon père devient aimable, galant, attentionné, flatteur, tendre. Il parle d'une voix douce, débordante d'affection. Sur la plaque de cuivre posée sur la porte de l'appartement est écrit en français « Madame Zita Mendes ». C'est elle-même qui nous ouvre, l'air radieuse. Son visage est d'un blanc frais et lumineux. Elle a un petit nez miniature et des lèvres charnues peintes d'une couleur écarlate. Ses cils écarquillés donnent un air étonné à ses grands yeux bleus. De fins cheveux noirs tombent sur ses épaules et sa robe décolletée découvre une poitrine abondante et des bras marmoréens. Même les ongles de ses mains et de ses pieds sont propres et élégants, dessinés avec soin et vernis d'un rouge brillant. Je conserverai longtemps dans ma mémoire l'image de Zita ouvrant la porte, l'image de l'autre femme exhalant le parfum de la tentation, de l'amante exquise qui vous entraîne vers l'intérieur, vers un monde secret, soyeux, enveloppé dans la jouissance et le péché. Tante Zita m'accueillait avec chaleur. Elle m'embrassait, m'étreignait, me répétait en français « Bienvenue à mon petit homme !» Derrière elle se tenait Antoine, son fils, qui avait 2 ans de plus que moi. Un garçon haut et mince, au front recouvert d'une frange de cheveux noirs et au visage parsemé de taches de rousseur, ce qu'il faisait ressembler à l'enfant du livre de lecture de langue française que nous avions au programme. Antoine parlait et riait rarement. Il nous observait, mon père et moi, d'un regard inquiet, les lèvres pincées, puis se mettait tout à coup à bouger, se levait ou allait dans sa chambre. Il avait toujours l'air d'être sur le point de dire une chose qu'il avait sur le cœur et de se raviser au dernier moment. Même quand je jouais avec lui dans sa chambre, il s'appliquait au jeu en silence comme par obligation. Une fois seulement, il s'arrêta de jouer et me demanda soudain « Quel travail fait ton père ?» Je lui répondis « Mon père est avocat. » Et il répliqua rapidement « Moi, mon père est un grand médecin en Amérique. Lorsque je serai grand, j'irai le rejoindre. » Comme je lui demandais avec étonnement s'il laisserait sa mère, il me jeta un regard sombre et ne me répondit pas. À cause de ce caractère ombrageux et déconcertant, mon père et moi n'abordions Antoine qu'avec précaution. Nous voici maintenant tous assis au salon. Mon père et Zita tentent d'animer la conversation. Antoine, comme d'habitude, se montre farouche, tandis que moi je me livre totalement. Je suis câlin avec Tante Zita. Je m'abandonne à ses baisers, son parfum capiteux et envoûtant, et le toucher de sa peau douce et chaude me titille. Je lui parle de mon école, j'invente de hauts faits imaginaires accomplis avec mes camarades, et elle fait semblant de me croire, d'être étonnée, d'avoir peur pour moi de mes actions héroïques. J'aime beaucoup Tante Zita. Et j'étais en complète connivence avec mon père qui, sur le chemin du retour, me recommandait chaque fois de ne pas en parler à ma mère. Je hochais alors la tête en signe d'assentiment, comme un vrai homme, et lorsque ma mère m'interrogeait avec un regard suspicieux, hostile et plein de défiance, je lui disais « Mon père et moi, nous sommes allés au cinéma. » Je mentais avec audace et je ne ressentais pas le plus petit sentiment de faute ou de traîtrise. Le monde enchanté de Zita Mendes me subjuguait. Je le conserve dans mon cœur. Son appartement lui-même, je m'en remémore maintenant tous les détails comme d'un authentique modèle de l'élégance européenne. Le grand miroir de l'entrée et le porte-manteau circulaire où nous accrochions nos vêtements, les pots de fleurs ronds en cuivre brillant sur les deux côtés desquels étaient gravées des têtes de lions, les rideaux, épais de couleur sombre, qui laissaient filtrer la pâle lueur du jour, la tapisserie claire et ornée de motifs décoratifs qui recouvraient les murs, les fauteuils marron foncé recouverts de velours vert olive et, dans le coin, un grand piano noir. Zita était danseuse dans un club de la rue Alfi et je suppose que c'est là que l'avait connu mon père. Tante Zita allait à la cuisine pour préparer le repas. Et mon père se rapprochait d'Antoine et de moi. Il mettait ses bras sur nos épaules et nous parlait affectueusement comme un père détendu en compagnie de ses enfants. De temps à autre, il protestait d'un ton enjoué pour rater le repas et Zita lui répondait en riant depuis la cuisine. Ces manifestations familiales, je les considère aujourd'hui comme des indices que mon père avait l'intention d'épouser Zita. La table était un chef-d'œuvre. Une nappe d'un blanc éclatant, des serviettes repassées et élégamment pliées pour leur donner du bouffant, des assiettes étincelantes de blancheur autour desquelles les couverts étaient disposés toujours dans le même ordre, un vase de fleurs, une carafe d'eau, des verres chatoyants et une longue bouteille reposant dans un récipient de métal plein de glaçons. La cuisine de Tante Zita était délicieuse. Elle ressemblait à celle des restaurants de luxe où mon père nous amenait parfois, ma mère et moi. Je mangeais avec application, affectant d'être rapidement rassasié, comme on me l'avait appris à la maison, pour que personne ne me critique. Mais mon père et Tante Zita ne se rendaient compte de rien. Ils étaient assis côte à côte et mangeaient, buvaient, chuchotait et riait beaucoup. Ensuite, mon père insistait pour qu'elle chante. Elle s'y refusait d'abord, puis acceptait et s'asseyait au piano. Peu à peu, son sourire s'effaçait. Son visage devenait sérieux. Elle laissait courir ses doigts sur les touches, d'où s'égayaient et flottaient des sons épars. Puis, à un moment donné, Zita baissait la tête, fermait les yeux comme pour rassembler ses idées, et elle commençait à jouer. Elle chantait des chansons d'Édith Piaf. Non, je ne regrette rien. Et la vie en rose. Sa voix était suave avec un léger enrouement mélodieux. Quand elle avait fini, elle restait un moment la tête baissée, les yeux fermés, les doigts pressés sur les touches du piano. Moi, j'applaudissais chaleureusement. Et Antoine restait silencieux. Quant à mon père, son enthousiasme atteignait son paroxysme. Il avait enlevé sa veste, dénoué sa cravate, il applaudissait, il criait bravo et il se précipitait vers elle pour lui embrasser le front ou bien lui prendre les mains dans les siennes pour les baiser. L'expérience nous avait appris que c'était là, pour Antoine et pour moi, le signal que nous devions sortir. Antoine se levait le premier et disait en se dirigeant vers la porte de l'appartement « Maman, nous descendons jouer. » Je me rappelle maintenant, avec un sourire compréhensif, le visage de mon père altéré par la boisson, enflammé de désir, alors qu'il fouillait avec impatience ses poches pour nous faire don à Antoine et à moi de la somme de 2 livres. En nous conduisant à la porte, il nous disait « Et si après avoir joué, vous alliez manger des glaces au New Castle ?»
Thank you.
Rendez-vous de midi, une émission qui s'inscrit dans le travail éditorial de la revue La Pensée de Midi, émission proposée et présentée par Thierry Fabre avec Elisabeth Sestor. Au sommaire de cette émission du mois d'avril, sur la route des musiques de trance autour de la Méditerranée, un entretien d'Elisabeth Sestor avec Algo, le porteur de ce beau projet. Une séquence littéraire présentée par Thierry Fabre autour de trois livres, Régis Debray, Le Moment Fraternité, Jérôme Ferrari, Un Dieu, Un Animal, et Georges Didier Huberman, Le Danseur des Solitudes. Enfin, troisième temps de cette émission, rencontre avec le grand écrivain égyptien Alaa El Aswany à l'occasion de sa venue à Marseille, à la bibliothèque départementale, le 11 mars. Au rendez-vous de midi, ou comment associer le gai savoir au goût de la vie.